La conversion est une notion assez floue dans la Bible, et pourtant elle y est essentielle, surtout d'ailleurs dans les évangiles. Et la conversion, ce n'est pas tellement quelque chose qui est agréable. On pense à ces conversions forcées par la menace, on pense à Philippulus dans Tintin qui frappe sur un gong en disant « Convertissez-vous, la fin du monde est proche ». Alors, dans le livre du prophète Osée, dans la Bible, un prophète qui chante l'amour de Dieu pour l'humanité, la conclusion de ce livre se termine sur un appel à la conversion, mais une tranquille et joyeuse conversion. Alors, je vais vous lire le chapitre 14 du prophète Ésaïe. Le prophète exhorte « Israël, reviens jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et tournez-vous vers l'Éternel et dites-lui, tu relèves tout ce qui est tordu, veuille prendre le bien. Nous toucherons au but, non par des sacrifices de taureaux, mais par nos lèvres. » Le peuple répond, « Assour ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre. » Et nous ne dirons plus « nos dieux » à l'ouvrage de nos mains, car c'est en toi que l'orphelin a l'amour qui donne la vie. L'Éternel promet « je guérirai leur conversion, je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est convertie, détournée de chacun. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme une fleur de joie, et il lancera des racines comme l'arbre à encens. » Ses rameaux se mettront en route. Il aura une dignité comme celle de l'olivier et un parfum comme celui de l'encens. Le prophète exhorte. Ils se convertiront ceux qui habitent à son ombre et ils feront vivre le blé et ils fleuriront comme la vigne et son souvenir sera comme le vin du Liban. Éphraïm dit. Qu'ai-je encore à faire avec ces idoles? L'Éternel répond. Moi, je lui ai répondu et rendu heureux. Moi, je suis comme un cyprès vert. C'est de moi que ton fruit sera révélé. Et en épilogue, Osée nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, toujours dans le psautier, le psaume 116, donc la version B, la version de Genève, 116B, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix », les quatre premières strophes. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui en particulier, dans le secret de notre conscience, de notre cœur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est ton espérance afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer notre vie. Alors le livre du prophète Osée se termine ainsi sur une joyeuse et tranquille conversion, un appel à un changement de logiciel, j'allais dire. Et au milieu de cette conclusion de son livre, il y a cette promesse que je trouve intéressante et belle. Dieu dit « Je guérirai leur conversion ». Alors on pourrait aussi traduire « Je guérirai leur apostasie », comme s'il guérissait que les mauvais retournements. Alors c'est vrai que Dieu cherche évidemment à guérir l'homme qui l'oublie complètement ou qui fait n'importe quoi, qui a une espérance complètement mauvaise, mais il cherche aussi à réformer sans cesse nos bons élans vers lui, vers Dieu, à les soigner, les cajoler, les enrichir de nouvelles dimensions. Donc oui, Dieu cherche à convertir nos apostasies et nos conversions. Alors Dieu a un mal fou évidemment, à soigner l'homme qui lui tourne le dos. Mais il peut travailler plus à son aise avec quelqu'un qui espère de Dieu qu'il guérisse encore sa conversion. Car c'est une personne qui est alors dans une ouverture au changement. Et c'est certainement votre cas, puisque vous vous êtes déplacé ici, donc malgré les élections, malgré le beau temps, et qu'on ne se lève pas un dimanche matin, à pas d'heure. On ne traverse pas la région parisienne, on ne fait même pas 100 mètres en fait, en dehors de chez soi, pour aller dans une église, si l'on n'a pas déjà quelque part soif de quelque chose de neuf qui pourrait venir de Dieu seul en fait. Le déplacement est déjà une prière, elle est déjà signe d'une conversion qui a soif d'être guérie, comme le dit Osée. Et nous sommes ici pour ça en fait, en donnant la part belle à la réflexion, c'est vrai. Car comme le propose le prophète Osée dans les derniers mots de son livre, il nous appelle à appliquer notre attention, notre intelligence à ces choses. Car si la réflexion n'est pas tout, elle est quand même une des portes d'entrée essentielles pour changer un peu de trajectoire, pour se convertir d'une belle façon. Alors d'accord, monsieur le prophète Osée, nous allons essayer de regarder d'un peu plus près ce que tu as dit de la conversion dans la conclusion de ton livre et y cueillir ce qui nous conviendra. Alors, Osée présente deux formes de conversion, en fait, si on regarde de près. Une qui est de l'ordre de la repentance morale, et l'autre qui est de l'ordre de l'amour et du dialogue. Alors, il propose d'abord par la conversion morale de l'humanité, en fait. Il nous dit, « Israël, reviens jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Alors ce texte nous propose de mettre de l'ordre dans notre vie, car si nous faisons n'importe quoi, ça crée des problèmes en fait. Nous faisons du mal aux autres, nous faisons du mal à nous-mêmes et au monde. Nous attristons Dieu aussi, si je puis dire, mais ça finalement c'est pas trop grave, car Dieu a les reins solides et il ne réagit pas, nous dit le prophète Osée, à nos erreurs, à nos manques, à nos péchés, en nous tapant dessus, mais au contraire, à chercher à nous aider, à nous guérir par l'amour, bien entendu. Alors cette première conversion, motivée par les conséquences de nos actes, est en fait assez naturelle, même les animaux le font. Nous cherchons ce qui améliore notre condition de vie et nous cherchons à éviter ce qui pose problème, évidemment. Au moins pour cela, nous pouvons essayer de travailler sur la qualité morale de notre vie. Alors voilà pour la motivation que propose Osée pour cette première dimension finalement de conversion, de retournement, que l'on pourrait appeler la repentance si l'on veut. Et comme moyen, il nous propose d'aller jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, dans cette espérance que lui, Dieu, pourra nous aider à améliorer notre fonctionnement. Alors ce n'est bien sûr pas demain la veille que nous arriverons à ce niveau, au niveau de Dieu, jusqu'à Dieu, dans notre perfection morale, bien sûr. Alors qu'est-ce que veut donc dire le prophète Osée en nous disant cela, de nous tourner, d'aller jusqu'à l'Éternel, notre Dieu? Eh bien, il nous dit deux choses en même temps vraies, et ce double sens est assez classique pour nous qui sommes habitués à la théologie chrétienne, puisque le Christ est présenté à la fois comme l'alpha et l'oméga. L'Éternel est à la fois l'acteur et le but de cette conversion morale. L'Éternel est le Dieu qui est en train de créer l'humain, l'humain dans l'humanité, l'humain en nous, bon an, mal an, en fonction de ce que nous lui laissons faire, bien sûr, et puis aussi de cette lente, croissante évolution qui est le propre de toute chose. Et sans créateur plus grand que l'humain, finalement, l'homme, nous le savons tous, a un mal fou à se changer lui-même. Alors l'Éternel est donc l'acteur de ce changement, et l'Éternel en est aussi le but. Et ça nous donne un idéal moral, bien sûr, inatteignable. Mais précisément, c'est ainsi une façon de nous donner un idéal sans nous culpabiliser. Bien des religions et des sociétés sont au contraire basées sur l'idée de jugement, de performance. Il faudrait un certain niveau moral, un certain niveau d'élévation, un certain niveau spirituel, religieux, pour être digne du salut de Dieu. Mais ici, puisque le niveau demandé, finalement, le niveau projeté est infini, personne ne peut nous en vouloir de ne pas être à la hauteur. Nous sommes tous, finalement, du même côté de la barre du jugement. Dieu seul est de l'autre côté et nous sommes tous saints ou alors personne n'est saint. Tout est donc une question d'espérance, de visée, de dynamique. Le prophète Osée ne nous dit pas de revenir aux paroles de la Bible, aux listes d'interdits et de commandements que nous donne par exemple le Lévitique ou l'apôtre Paul qui en est spécialiste. Mais le prophète Osée en conclusion nous dit que c'est mieux d'aller jusqu'à Dieu directement et ainsi que tout Israël, toute l'humanité, donc chacun de nous soit en ligne directe avec Dieu et que ce soit sa parole à lui que l'on entende directement. Et effectivement, au début c'est tout Israël qui doit aller jusqu'à Dieu et progressivement dans le texte ça va jusqu'à la deuxième personne du singulier, donc vers chacune et chacun de nous auquel Dieu s'adresserait directement. Cette attention que nous propose d'avoir Osée, elle s'enrichit bien sûr de l'expérience des uns et des autres, et donc en particulier avec l'expérience qui est dans la Bible, mais avec la discussion, avec la philosophie. Mais finalement, en définitive, l'objectif, c'est d'être cœur à cœur avec Dieu et que le fidèle puisse découvrir ainsi le juste chemin, finalement, et reçoive de lui directement les forces qui lui manquent pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer. Mais Osée a raison, bien sûr, quand il ne dit pas « Toi, homme », à la deuxième personne du singulier, « Toi, change de comportement », mais qu'il appelle le peuple tout entier « Israël, reviens jusqu'à l'Éternel, ton Dieu ». Parce que progresser sur le plan de notre comportement moral n'est pas une question purement individuelle, en fait, pas seulement individuelle, mais c'est une question profondément collective, et pour plusieurs raisons, en fait. D'abord parce que le juste comportement, le comportement moral que je dois avoir aujourd'hui, c'est pas simplement une question individuelle, mais c'est en fonction de ce que sont les autres autour de moi. Notre conversion morale, c'est une relation aux autres plus approfondie, plus évoluée, plus fine, plus inspirée. Et cette conversion, elle est aussi collective pour une autre raison, parce qu'il est en fait impossible de se faire soi-même tout seul, de se changer soi-même en fait. Nous avons eu besoin des autres pour nous aider à grandir quand nous étions enfants. Et aujourd'hui, comme le dit Jésus, c'est dans la mesure où nous acceptons un peu d'être comme un enfant que nous pourrons changer en mieux. Mais je crois que plus profondément encore, nous avons une vision beaucoup trop individualiste, finalement, de la conversion, du progrès moral et du salut. Peut-être que cela nous vient d'une lecture trop rapide de l'Évangile du Christ qui insiste tellement sur la valeur unique, irremplaçable, ultime de chaque individu sous le regard de Dieu. Et ça devrait l'être aussi pour notre regard sur les autres. Mais le Christ est aussi celui qui nous attache les uns aux autres en un seul corps. Et nous, trop souvent, nous avons une morale profondément individualiste, en fait. Par exemple, il est courant dans notre société de considérer que tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, on peut faire ce que l'on veut, que cela ne regarde personne. Mais si l'on considère l'humanité comme un corps, ce n'est pas le cas. Car la façon d'être plus ou moins constructive ou erratique de chacun influe sur son entourage. Nous ne pouvons en effet pas être tout à fait une personne différente dans notre travail, dans nos loisirs créatifs ou hédonistes, à la maison, avec les autres hommes, avec nos parents, dans les commerces, en conduisant notre voiture. Et donc notre façon de vivre, même dans l'intimité la plus stricte, elle influe sur notre façon d'être, sur notre façon d'espérer, sur nos espérances, sur notre philosophie de vie, et donc sur notre théologie, sur notre être tout entier, et donc sur notre entourage. Et inversement, si quelqu'un a du prix à nos yeux, et que cette personne nous semble, selon notre conscience, filer du mauvais coton, aller droit dans le gouffre finalement, ou bien simplement marcher en clochant, même si cette personne est libre et consciente de ce qu'elle fait, si cette personne a du prix à nos yeux, nous ne pouvons pas penser que cela ne nous concerne pas. Mais souvent, tant que les choses injustes ne nous blessent pas directement, ne nous font pas de mal directement, nous considérons que ce ne sont pas nos oignons. Le vrai respect de l'autre n'est pas dans le fait de s'en laver les mains, de détourner les yeux comme si de rien n'était quand il y a un problème même chez les autres. Les dysfonctionnements les plus privés ne sont peut-être pas comme une bombe qui explose, mais ils sont comme un poison lent finalement, tordant un peu le mal en quelque chose d'acceptable. Et en les assumant, en simplement fermant les yeux, en disant « c'est pas mes affaires », ils émoussent notre sensibilité finalement, notre idéal, notre justice. La Bible hébraïque compare cela à une lèpre qui se transmet à tout le peuple. Alors que faire ? Que faire ? Parce que nous avons déjà du mal à enlever la poutre qui est dans notre œil, alors comment pour parler d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin ? Eh bien, il n'y a pas de recette toute prête. Nous avons peut-être un rôle à jouer pour l'aider, d'une certaine façon, ou peut-être pas. Cela demande un respect infini de l'autre, cela demande une sagesse digne de celle de Jésus-Christ. Alors à défaut, ça demande de l'humilité. Et cette humilité s'exprime dans la recherche du secours de l'Éternel, d'aller même, nous dit le prophète, jusqu'à l'Éternel, pour savoir que faire, que dire, qu'être. Comment saurons-nous dans cette recherche si nous sommes allés jusqu'à l'Éternel? Nous savons que Dieu a été là a posteriori, quand nous sentons que nous avons progressé, un peu comme ces arbres qui poussent, dont parle le prophète Osée dans la suite de son texte. Peut-être quand nous ressentons une qualité d'amour ou une force que nous n'avions pas avant et que nous n'avions même pas imaginé. Le prophète parle de cet effet de Dieu dans notre vie par des images poétiques. Le signe de ce contact est parfois comme une fleur de joie, nous dit-il, qui s'est épanouie un instant. Ou c'est dans le fait que nous avons pu jeter des racines nouvelles, des racines de prière jetées vers le ciel, nous dit-il dans une image assez osée, c'est le cas de le dire. Ou comme le sentiment de notre dignité, nous dit-il, que nous sommes un peu comme un olivier, c'est-à-dire chargé, qui a la mission d'apporter de l'huile de bénédiction, de salut pour les autres autour qui passent à la portée de nos branches. Et alors oui, peut-être que parfois nous saurons que faire face au mal, que dire pour que tous ensemble nous progressions un peu plutôt que de ne nous occuper que de nos petites affaires, de notre petit cercle à nous, et que nous puissions vivre ensemble mieux finalement. Et construire une humanité fraternelle et plus juste. Alors après cette première conversion assez pragmatique finalement, Osée nous invite à une autre forme de conversion complémentaire, la conversion par l'amour et le dialogue. Il ne s'agit plus de chercher à s'améliorer de peur des conséquences négatives, mais par amour. « Prenez avec vous des paroles, nous dit Osée, et tournez-vous vers l'Éternel. » Là, il ne s'agit plus seulement de comportement moral, ni de progresser par crainte des catastrophes que nous pourrions engendrer, mais la motivation pour cette orientation nouvelle vient du fond de notre être, finalement, et est dirigée vers une réalité qui nous était inconnue et qui demeurera toujours inconnaissable. En effet, là, on ne va pas jusqu'à l'Éternel, mais simplement on s'oriente vers l'Éternel comme quelque chose d'inconnu et qui nous dépasse infiniment. Mais qu'importe, dans cette conversion-là, il ne s'agit donc pas d'aller jusqu'à l'Éternel, mais seulement nous tourner en direction de l'Éternel. Alors nous pouvons le faire en étant très très loin de Dieu par notre théologie, par nos doutes, par notre colère, par nos actes, qu'importe. Le prophète nous suggère juste de prendre avec nous quelques paroles que nous adressons à Dieu, comme un début de prière, comme un début d'espérance, avant même de pouvoir l'entendre par nos propres oreilles, qui vient prendre place de la parole du prophète. Non, c'est de Dieu que nous recevrons alors, mais plus tard, la confiance qu'il finira par guérir notre conversion, la nôtre personnellement et celle de ce grand corps qu'est l'humanité. Prenez avec vous des paroles, tournez-vous vers l'Éternel et dites-lui, « Tu relèves tout ce qui est tordu, veuille prendre le bien, le saisir. » Voilà cette toute simple prière en deux phrases ou en deux chapitres, ça dépend si on est bavard ou laconique. L'Éternel te relève de tout ce qui est tordu. L'Éternel t'a relevé déjà aussi. Ça pourrait être un passé et un présent et une espérance. C'est la mémoire de ce que Dieu a déjà accompli dans l'humanité comme guérison finalement. C'est une louange pour le fait qu'il pardonne et qu'il réagisse par l'amour à tout ce qui est tordu et souffrant. Et c'est aussi une prière de repentance pour reconnaître que nous avons besoin de son aide pour redresser ce qui est tordu. Et puis la deuxième prière, donc c'est « Éternel, veuille prendre le bien ». Alors ce bien qui est en nous, peut-être et que nous ne connaissons même pas, ce bien qui est dans l'humanité, qu'il peut nous faire découvrir et qu'il peut rendre vivant. Alors le prophète Osée nous tranquillise. La question avec l'Éternel, c'est pas de payer nos fautes avec des sacrifices, évidemment, ni de taureaux, encore moins des sacrifices humains, comme certains le pensent à propos de la croix du Christ. Mais la question, c'est d'aller avec Dieu et grâce à Dieu au bout de notre développement vers la paix, vers l'aboutissement de l'humanité, de l'humain en nous, dans la profondeur. La paix en nous, la paix entre nous et la paix avec Dieu. Et donc l'action de Dieu pour nous changer est douce. C'est de l'ostéopathie finalement, pour redresser ce qui est tordu dans le monde et en nous. Il ne s'agit pas de nous amputer ni d'arracher des démons de notre corps, de notre âme, mais juste de remettre en place quelques petits trucs qui ont été froissés peut-être, ou qui ont mal grandi, ou qui ont poussé dans tous les sens. Et Dieu nous rend capables, nous dit le prophète, de nous détourner ainsi de quelques idolâtries. Alors il en donne une petite liste. La compromission, l'illusion que nous pourrions nous en sortir par la violence, l'illusion peut-être de pouvoir nous sauver par notre seule technique, par notre seule pensée, notre seule philosophie. Alors orphelins de ces fausses espérances, nous pouvons alors recevoir de lui la vie, de lui qui nous aime comme une mère aime son nourrisson. Et tout le bien qui nous habite est alors libéré finalement. Nous pouvons découvrir que nos désirs étaient bons, ils étaient juste peut-être mal orientés parfois, que nous pouvons découvrir que notre personnalité est bonne finalement et qu'il y a encore tant de choses en nous de bon que nous ne soupçonnions même pas finalement. Eh bien, prends-le tout ce bon qui est en nous, ô Éternel, et donne-lui la vie. Et donc Dieu travaille en nous et dans l'humanité sur ce qui est malade. Il donne vie à ce qui est bien en nous et le reste que l'on ne peut pas changer et qui nous constitue quand même, notre corps avec ses caractéristiques, bonnes ou moins bonnes, notre personnalité, notre culture qui vaut ce qu'elle vaut bien sûr, nos souvenirs dont ceux dont nous nous passerions bien. Avec Dieu, nous apprendrons à faire avec, car c'est nous aussi, tout cela. Le prophète nous compare alors à un terrain sur lequel Dieu donne comme une rosée qui fait pousser toutes sortes d'arbres. Cette deuxième dimension de la conversion, c'est celle de l'amour. C'est pas seulement le fait de se réorienter, comme dans la dimension morale de la conversion. Ce n'est pas simplement un savoir, ni de progresser sur le plan des actes ou dans notre espérance. Cette conversion, elle nous ouvre à une dimension supplémentaire, à une verticalité, un élan vers le haut que la terre aride ne soupçonnait même pas, bien sûr. Et puis d'avoir un nouvel enracinement dans le ciel. Alors ce que nous sommes est ce qu'il est. Mais il devient alors l'humus qui reçoit cette rosée qui libérera de multiples graines enfouies et que nous ne connaissions pas. C'est mystérieux, la rosée. Elle vient de nulle part, comme d'une autre dimension. Et pourtant, elle peut faire fleurir le désert et faire pousser des arbres. Et la terre l'ignorait, cette terre aride, ne pouvait imaginer cet élan vers le haut du cyprès comme une flèche dans le ciel, ni le parfum de la fleur, ni la racine jetée comme une prière, une joie alors inconnue. Amen.